recette de cœur. Bella Ciao. Aujourd'hui, recette de cœur avec Morve Amalvi. Morve Amalvi, dont on écoute Chimère Nocturne, extrait de son album Chimère Nocturne.
Titre éponyme de l'album, qui est une ode amoureuse, quitte à voir l'enfer. Voilà, c'était vraiment l'idée de ce titre.
L'amour, il est présent. Et dans l'album, il y a d'autres angles d'attaque.
Alors l'amour est très présent, la dualité antinomique, la mort évidemment. Et puis d'autres thèmes que j'ai abordés de façon plus ou moins explicite. Le thème de la question de la migration, qui est une question qui me touche beaucoup, que j'ai abordée à travers Gibraltar, mais qui est un titre uniquement instrumental. Et puis d'autres thèmes un peu plus sulfureux, notamment dans Variation sur Lolita, qui narre une scène de masturbation féminine. Donc voilà, il y a plusieurs axes effectivement d'approche et d'écriture dans cet album.
Maintenir le lyrisme de l'amour courtois, c'est un des objectifs de l'Académie des Jeux Floraux. Si j'évoque l'Académie des Jeux Floraux, c'est parce que vous venez de recevoir le prix de poésie. Un mot sur cette académie, sur cette prestation, sur cette remise de prix et sur l'amour courtois éventuellement.
Oui, j'ai reçu ce prix avec beaucoup de bonheur et d'honneur le 3 mai dernier, à travers une très belle cérémonie dans la salle des illustres au Capitole, effectivement, où l'Académie des Jeux Floraux décerne depuis plusieurs années maintenant le prix de la chanson poétique que j'ai eu l'honneur de recevoir pour le titre justement Chimère Nocturne, et qui vient mettre en avant cette pluralité aussi dans la dynamique poétique, alors bien sûr avec des poèmes, bien sûr avec de la littérature, mais aussi avec ce vecteur-là et ce médium musical. Donc c'était un grand honneur et un grand plaisir de recevoir ce titre-là.
Et on revient donc à nos chimères nocturnes.
J'ai volé vos yeux d'émeraude, attrapé vos joues d'enfant, les écroqué sans discorde. Nobles hommes, ayez pitié, je succombe à ces et voler tous nos baisers, me suis vendu à l'ivresse. Sombre mage, réveillez-moi, mes nuits sont tapis de chimères qui laissent dans mes draps. Thank you.
on va mal vie, on commence avec Gainsbourg, Variation sur Marie-Lou.
Variation sur Marie-Lou, j'adore et je l'aime tellement que j'ai écrit un écho Variation sur Lolita qui est sur l'album, qui est un titre vraiment inspiré de cette dynamique très années 70 qui est hyper importante pour moi. Je me sens vraiment à la croisée des influences et cette époque-là est très nourricière, je trouve, et notamment dans la chanson française, très très riche. Et donc Variation sur Lolita, qui est un titre que j'aime particulièrement, qui n'est pas toujours le titre le plus écouté ou diffusé de Gainsbourg, parce qu'il est long, parce qu'il est sulfureux, parce qu'il est un peu entêtant. Il y a ces quatre accords qui tournent en boucle et qui, moi, m'a toujours énormément touchée. Et donc j'ai écrit un écho Variation sur Lolita, qui est d'ailleurs le seul morceau où je parle dans l'album, qui n'est pas du tout chanté, pour renouer un petit peu à cet héritage-là gainsbourgien qui est totalement prédominant et déterminant dans mon parcours. Aussi parce que chez Gainsbourg, il y a cet amour de la musique classique que je nourris très très fort aussi, et cette espèce de porosité entre les formes artistiques, de transdisciplinarité entre les beaux-arts, la musique classique, le jazz, la chanson, le rock, voilà, il y a vraiment la disco aussi plus tard. Il y a vraiment ce rapport totalement composite qui, moi, est, voilà, quelque chose assez essentiel dans mon esthétique.
La musique classique, ça a commencé par le piano ?
Ça a commencé, alors, par le chant lyrique, en fait, même si à 4-5 ans, on n'a pas le matériau fini pour le mettre à profit, mais ma grand-mère a dirigé pendant plus de 40 ans une troupe d'opérettes, d'opéra comique qui s'appelle Les Compagnons du Théâtre, qui est basée à Castres et qui défend l'art lyrique depuis plus de 70 ans parce que la troupe est très ancienne. J'ai grandi dans ça, quoi. Je suis tombée vraiment dans la marmite petite, dans les productions lyriques. Donc ça a toujours été là, d'abord avec ce rapport-là à l'art lyrique et puis ensuite effectivement avec le piano. Plus tard dans mon parcours.
Allez, on revient vers Marie-Lou.
Son regard absent et son iris absinthe, tandis que Marie-Lou s'amuse à faire des volutes de sèches au menthol entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec le zip de ses lévis. Je lis le vice et je pense à Carole. Son regard absent et son iris absinthe, tandis que Marie-Lou s'évertue à faire des volutes de sèches au menthol entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec son zip à entrebâiller ses lévis. Dans son regard absent et son iris absinthe, dis-je, je lis le vice de Babydoll et je pense à Lewis Carroll. Son regard absent et son iris absinthe, quand crachent les enceintes de la sono lançant accords de quartes et de quintes, tandis que Marie-Lou s'esquinte, la santé s'éreinte à s'envoyer en l'air. Thank you. lorsqu'en un songe absurde, Marie-Lou se résorbe, que son coma l'absorbe en pratiques obscures. Sa pupille est absente, mais son iris absinthe, sous ses gestes se teinte d'extase sous-jacente. À son regard, le vice donne un côté salace, un peu du bleu lavasse de sa paire de Lévis. Tandis qu'elle exhale un soupir au menthol, ma débile mentale perdue en son exil physique et cérébral joue avec le métal de son zip et l'atoll de corail apparaît. Elle s'y coca-colle un doigt qui en arrêt au bord de la corolle est pris près du calice, du vertige d'Alice de Lewis Carroll. Que son coma absorbe en des rêves absurdes. Sa pupille s'absente et son iris absinthe subrepticement se teinte de plaisirs en attente. Perdu dans son exil physique et cérébral, un nain, elle exhale des soupirs fébriles parfumés au menthol. Ma débile mentale fait teinter le métal de son zip. Et Narcisse, elle pousse le vice dans la nuit bleue lavasse de sa paire de Lévis. Arrivée au pubis, de son sexe corail écartant la corolle, prise au bord du calice de vertigo, Alice s'enfonce jusqu'à l'os au pays des malices de Lewis Carroll.
De Gainsbourg, Mauve à Malvie, à Franz Lehr, l'ouverture du pays du sourire.
Ouais, alors voilà, on en parlait effectivement, l'opérette. Opérette romantique début 20e, 1929 je crois, 1930, le pays du sourire. C'est un genre qui me tient particulièrement à cœur, qui est très très présent dans mes influences. Cette ouverture, je la trouve sublime. L'exposition de thèmes absolument extraordinaire dans l'œuvre, notamment « Je t'ai donné mon cœur » qu'on entend dans cette ouverture. L'ouverture, c'est toujours un moment que j'aime beaucoup, que ce soit l'opéra, l'opérette. C'est le moment où on expose les thèmes forts, c'est un moment où l'orchestre prend la parole. À ce rapport verbeux, bavard. Et c'est un moment qui est toujours très méditatif pour moi, le moment où voilà, je suis dans mon fauteuil et l'orchestre s'accorde et ouvre ses chefs-d'œuvre de l'art lyrique. C'est toujours un moment qui est très méditatif.
Ça vous a arrivé de ne pas être que dans le fauteuil, mais d'être sur scène ?
Oui, beaucoup. Ça m'est arrivé plus d'être sur scène que dans le fauteuil, d'ailleurs. Parce que très, très tôt, j'étais sur les planches, justement, dans la troupe des compagnons du théâtre. Et puis, jusqu'à mes 16-17 ans, j'étais dans les chœurs aussi. Donc, j'ai beaucoup plus été de l'autre côté. Aujourd'hui, je reste sur scène, mais plus dans le milieu lyrique, voilà, à travers mon projet chanson. Et effectivement, quand je vais voir un opéra maintenant, je suis plutôt de l'autre côté. Mais toujours avec vous.
éclectisme, moi, va mal vie, puisque maintenant, on passe à Muse, Plug Me Baby.
Ouais. Éclectisme, effectivement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Comme je l'ai dit avec Gainsbourg, j'ai vraiment ce goût-là pour la diversité esthétique. Hein, et Muse est un groupe qui me touche beaucoup. Un groupe alors, de rock, voilà, on est pour le coup dans une esthétique extrêmement diamétralement opposée à ce qu'on vient d'écouter. Il y a un lyrisme fou dans Muse. D'ailleurs, Matthew Bellamy, le chanteur qui compose énormément aussi de ce projet Muse, est très très influencé par la musique classique. Il revendique, hein, il revendique son appartenance à Chopin, à Rachma, à Saint-Saëns. J'aurais pu aussi proposer I Belong to You, qui est un titre que j'aime énormément de Muse aussi, où pour le coup là, la citation et la filiation est totalement assumée, parce qu'il vient hybrider au milieu du titre un extrait de Mon cœur s'ouvre à ta voix de l'opéra de Samson et Dalila, où il vient voilà, chanter cette ode. Et je retrouve dans Muse vraiment ce rapport aussi dans l'harmonie, hein, qui est finalement très classique dans l'écriture harmonique, mais aussi dans les mécanismes d'exposition du thème. Il y a vraiment un rapport extrêmement classique. Donc c'est un groupe de rock, effectivement. Le rock est très important pour moi, mais qui a avalé des tonnes et des tonnes d'heures de musique classique.
Tout ça est débouché sur le projet Chanson Actuelle, n'est pas évident. Comment non. C'est arrivé ?
C'est vrai que la chanson, ça a toujours été central pour moi, le texte. Je suis énormément influencée par tous les grands de la chanson française, mais c'est d'une banalité affligeante de le dire, hein, comme beaucoup aujourd'hui, voilà, par Brel, par Barbara, par Brassens, par des gens comme Anne Sylvestre d'ailleurs, je le dis parce que voilà, on est à côté d'une bibliothèque où il y a des œuvres d'Anne Sylvestre qui a bercé mon enfance. Pour moi, Anne Sylvestre, c'est vraiment la voix de mon enfance, ça résonnait à la maison tout le temps. Et j'ai grandi vraiment avec cette voix, comme si c'était une vieille tante qui était toujours là. Le texte, ça a toujours été central dans mon parcours professionnel, universitaire, mais aussi musical. Et la chanson aussi. Et puis, je me suis dit, je vais essayer de créer ma chanson, c'est-à-dire l'esthétique qui me semble être à ce carrefour d'influence. Et refuser la pureté formelle, sortir un petit peu de cette codification très rigide qu'on nous impose parfois et aller vers la pluralité et se dire qu'on peut avoir un morceau très classique. Évidemment, il y a un morceau sur l'album avec un cœur lyrique et puis ensuite un morceau beaucoup plus assumé rock comme Variation sur Lolita. Et ça, pour moi, c'était important d'avoir cette liberté-là. Et le texte, la chanson, pour moi, permettait ce point de carrefour. C'était assez naturel.
I've exposed
continue ce set de cœur, Mauve à Malvi, avec Puccini, La Bohème.
Ah, La Bohème. Alors là, je pourrais en parler des heures. La Bohème, c'est cette terre de Rodolfo qu'il adresse à Mimi dans le premier acte. Je pense que je pleure à chaque fois que je l'entends. Qui est bouleversant de lyrisme. Et pour moi, la bohème, ça catalyse vraiment ça, quoi. C'est une espèce de mise en abîme de notre vie d'artiste, alors qu'on fantasme parfois, mais ce Paris de la toute fin du 19e, 1895, la bohème. Donc on est vraiment dans ce Paris-là qui s'institue autour de ce fantasme de l'artiste, cette capitale esthétique aussi, à tous les niveaux, poétique, pictural, musical, et la bohème vient vraiment, je trouve, chercher ce nectar-là. Cet air est sublime. Adressé à Mimi dans cette histoire d'amour tragique, mais sublime. Et voilà, encore une fois, l'opéra, la musique classique qui me rattrape toujours. Et ils ont donné la bohème cette année au Capitole, j'y suis allée 3 fois. Voilà, j'arrivais pas à m'arrêter. Je me disais, bon, allez, encore une fois, puis je suis allée 3 fois. Mon conjoint m'a dit que j'étais folle, qu'il fallait que j'arrête. Et à chaque fois, j'y revenais. Je disais, en plus, j'habite juste à côté, je suis dans la rue du Thor, donc j'avais juste à traverser la place du Capitole pour... Voilà, et on peut l'écouter 1 milliard de fois, c'est toujours la même émotion. Donc ouais, une œuvre très très importante. L'opéra italien, de toute façon générale, c'est central dans mes influences.
Castellina!
Éclectisme, on disait, on continue dans ce sens-là, puisque de Puccini à The Animals.
Ouais, House of Rising Sun, j'adore ce titre, pareil. Enfin voilà, j'ai choisi les titres que j'aimais, qui ne sont pas forcément les titres les plus pointus ou les plus niches, mais des titres qui, voilà, qui font sens et qui sont toujours là, en fait, qui me suivent d'une façon ou d'une autre. J'adore ce titre. Je crois que je l'ai découvert toute petite par Fabrice Drouel sur Inter. Donc, c'était le générique d'Affaires Sensibles à l'époque, qui depuis a changé. Mais à l'époque, c'était le générique. Alors, en plus, avec la voix de Drouel, ce générique, ce riff de guitare qui arrivait, moi, ça m'obsédait quand j'avais 7-8 ans à l'époque où, bon, c'était pas trop ça qu'écoutaient mes potes. Et très tôt, j'ai eu envie de le jouer. Et c'est un morceau que j'ai beaucoup joué, que je joue toujours dans le cadre de certains de mes projets de reprise et qui a toujours été présent. Je trouve que c'est un morceau un peu de... C'est un morceau de bande originale de vie, quoi. Quand on pense à des moments avec un peu de panache qu'on a vécu, il suffit de mettre en fond ce titre-là et de suite, tout est magnifié et on a envie de partir un peu la clope au bec avec ce morceau en fond. Donc, je le trouve incroyable, ce titre. Je trouve le clip incroyable. Pareil, cette époque-là, 60-70... C'est une époque, comme beaucoup de gens de ma génération, qu'on fantasme beaucoup, qu'on aurait aimé vivre aussi. Il y a vraiment cette espèce de rapport très british dans ce clip, dans les fringues, les tenues. Voilà, c'est un titre que j'aime énormément et ce riff de guitare, je trouve qu'il est... C'est vraiment une trouvaille musicale, quoi.
Un mot sur ces projets, sur vos projets de reprise ?
Alors, donc il y a mon projet principal que je défends sous le nom de scène Mauve à Malvie, et puis Chambre Bleue, qui est un projet de reprise, de cover, où on récupère des titres, des grands titres, soit de la pop, soit de la variété, qu'on vient réarranger à notre sauce, à travers un projet qui est soit en duo, donc où je suis piano-voix et mon conjoint qui partage la scène avec moi a ses divers instruments, clarinette, saxophone, accordina, qui est entre l'accordéon et l'harmonica, qui est un instrument que joue beaucoup Richard Galliano, grand accordéoniste français. Voilà, donc Chambre Bleue, qui est aussi un projet avec lequel on tourne beaucoup et dans lequel je reprends House of Rising Sun, voilà, entre autres.
rising sun.
Avec Jacques Offenbach, Orphée aux Enfers.
Ouais, on ne se refait pas toujours l'opérette. Je me rends compte en fait que j'ai... Ouais. Ça aurait pu être d'autres Jacques, ça aurait pu être Brel bien sûr, mais c'est tellement évident quand on fait de la chanson que... voilà, ce n'était pas forcément ça que j'avais envie de mettre en avant, mais Offenbach, c'est une histoire d'amour depuis toute petite. Voilà, j'écris ma thèse, entre autres, sur Offenbach. Orphée aux Enfers, chef-d'œuvre absolu. Et cet extrait-là, alors qui n'est pas forcément non plus celui qu'on entend toujours, La mort m'apparaît souriante, qui dans cette version est magnifiquement chantée par Nathalie Dessay. Toujours cette délicatesse d'Offenbach dans le phrasé, dans la façon de faire passer le sentiment, la condition humaine, la satire aussi, qui est un thème qui lui est très cher et qu'il manie avec beaucoup de subtilité et de finesse. Offenbach, je pense que s'il devait en rester qu'un, ce serait lui. J'ai une fascination pour le personnage, le compositeur, l'homme de théâtre. Et finalement, la force qu'il a eue, lui, jeune musicien, compositeur juif allemand, qui arrive de Cologne, à l'âge de 14-15 ans, et qui devient la marque de fabrique française, quoi, jusqu'à aujourd'hui, parce que le cancan, voilà, c'est Offenbach. Alors, c'était pas un cancan, hein, c'était le galop infernal, justement, d'Orphée aux Enfers, qui a ensuite été récupéré par toute la culture musicale. Mais comment un homme comme ça, pas du tout français, réussit finalement à catalyser la griserie du 19e parisien, et encore aujourd'hui... Donc j'ai beaucoup d'amour pour son genre, pour l'opéra bouffe. Alors on dit beaucoup qu'Offenbach est le père de l'opérette, c'est pas tout à fait vrai, au détriment d'Hervé qui est le réel père géniteur de l'opérette, mais Offenbach a beaucoup écrit d'opéra bouffe. Il s'inscrivait vraiment justement dans cette culture de l'opéra bouffa italien. Et l'opéra bouffe d'Offenbach, voilà, c'est une très très belle écriture et c'est beaucoup de bonheur à chaque fois. Je conseille à tous les gens qui sont intéressés par l'art lyrique et qui ont un peu peur des grands Wagner qui durent 4-5 heures d'aller découvrir Offenbach.
Votre thèse, c'est dans le cadre des arts de la scène, des arts du spectacle. C'est ce qui permet de faire que vous n'êtes pas schizophrène entre votre projet chanson et votre activité universitaire.
C'est mon point d'équilibre et Offenbach fait bien la liaison. Mon sujet de thèse, c'est sur les formes théâtro-musicales qui hybride les codes populaires et les codes savants. Donc je travaille effectivement sur Offenbach, mais aussi sur Bernstein, voilà, qui sont aussi des grandes figures qui ont su inclure cette diversité esthétique encore. Hein, je redis beaucoup ça, mais c'est assez central.
Oh,
termine ce parcours Mauve à Malvy avec Serge Reggiani, mais accessoirement avec Baudelaire, Enivrez-nous.
C'est pareil, c'est d'une banalité affligeante. Alors, c'est plus pour. J'aime beaucoup Reggiani, mais c'est pas tant pour Reggiani qui est fabuleux, mais qui est pas tant présent finalement dans mes influences musicales que pour Baudelaire, qui pour le coup l'est beaucoup. Et ce poème, qui pour moi est un mantra de vie, magnifiquement récité par Reggiani, magnifiquement accompagné. J'aime beaucoup cet extrait. Alors, je triche un peu parce que c'est pas tout à fait un titre musical. Enfin, en tout cas, c'est pas tout à fait une chanson. C'est un poème récité, mais c'est délicieux, je trouve. Et c'est régulièrement, je le relis, je le réécoute, et j'essaie de. Voilà, c'est un phare un petit peu, un phare dans la nuit et dans les moments parfois, un petit peu de doute, mais qui est nécessaire dans la création, le doute bien sûr. En tout cas, ça permet de reconnecter toujours, ce poème.
L'ivresse est présente dans vos chansons, je pense dans Almanach entre autres.
L'ivresse est présente, j'en parle dans Almanach, c'est vrai, j'en parle dans Chimère nocturne aussi. Et effectivement, c'est le thème central de ce poème. Offenbach parle beaucoup d'ivresse aussi, alors de façon très pragmatique, à la griserie du 19e, le champagne, et puis une ivresse plus métaphorique. Et effectivement, c'est un thème qui m'est cher et qui revient beaucoup. Et le mot, rien que le mot, le mot ivresse, je le trouve beau. Et puis il est polysémique, on peut y mettre plein de choses. Ça peut être l'ivresse, effectivement, du flacon, ça peut être l'ivresse amoureuse. Je trouve que c'est un concept qui est très fertile.
Le fait que vous l'ayez choisi à la fin, c'est un côté message et ligne de conduite à suivre.
Oui, je pense. Ouais, c'est un peu, encore une fois, un mantra. C'est vrai que je l'ai mis naturellement en dernier, mais je crois que j'avais envie de laisser ça. En plus, c'est un médium qui est plus accessible. C'est vrai que acheter un recueil de Baudelaire, c'est pas forcément toujours le truc le plus fun qui soit. Et ce médium-là permet de faire entendre les mots, de faire entendre ce rapport, ce goût pour l'éphémère, ce goût pour l'émerveillement, pour l'instant. Et je crois que c'est que ça qui compte en fait. Voilà, et c'est ça qu'on doit garder. Donc, enivrez-vous, bien sûr, enivrez-vous.
Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu ? À votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue. Demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise.
Enivrez-vous par Serge Reggiani termine le set de cœur de Mauve à Malvy. Mais pas de set sans rappel. Aussi on se sépare en écoutant Ode au spleen, extrait de son album Chimère nocturne.
Ode au spleen, ça fait bien écho je trouve avec Baudelaire avec lequel on vient de finir. Évidemment Baudelaire qui est le maître à penser dans le domaine du spleen. Et ce morceau qui est une ode, qui rappelle que le cafard, il peut être aussi nourricier. Alors il vient un peu tricoté dans nos viscères comme une couturière appliquée, mais il peut aussi être un point de départ, et c'est un outil pour nous en tant que créateurs et créatrices. Donc j'avais envie, voilà, même s'il est souffrant parfois, de lui rendre hommage, et à travers ce morceau d'Ospline, écrit complètement dans le cliché d'une soirée nocturne, voilà, et ça ferme bien la boucle avec Baudelaire.
Le spleen, votre seul proxénète, jolie formule.
Exactement. Exactement. Le spleen est mon seul proxénète.
Dans ce projet, on n'a pas du tout évoqué ce qui se passe sur scène et ce qui se passe avec l'accompagnement musical. Pour le lancement de l'album, il y avait de grand nombre de musiciens sur scène, par exemple.
Alors, on est très nombreux et nombreuses sur scène. On est 8, ce qui est quand même assez conséquent pour un projet chanson. Et j'avais envie de ça, j'avais besoin de ça. Pour moi, c'était déjà une petite formule, parce que sur l'album, il y a des titres où on est 15 musiciens. Donc, c'était déjà pour moi une réduction. On a beaucoup travaillé avec Laurie Delaty, qui a fait tout le travail d'arrangement, qui a composé certains instrumentaux de l'album aussi, qui a réalisé l'album au sens technique du terme, donc toutes les contraintes liées au son, à l'esthétique. Et puis, on est arrivé à ça, à cette formule à 8, où on a une espèce de quatuor hybride avec un cor, une clarinette, un violoncelle et puis un trompettiste, et puis donc Laurie Delaty qui est au timbal, à la batterie, un bassiste contrebassiste, un guitariste clavieriste, et puis moi qui bouge aussi entre la guitare, l'auto-harpe, le clavier et le chant, évidemment. Donc c'est une formule qui est assez riche, mais j'avais besoin de cette épaisseur esthétique et j'en avais très envie. Alors, c'est évidemment difficile de tourner partout avec un projet aussi lourd techniquement. Donc, il y a une formule plus intimiste avec laquelle je travaille sur toute la visibilité du projet, mais aussi sur les formats première partie, les formats showcase, où on est en duo, du coup, avec mon guitariste claviériste. Mais la formule officielle de scène est cette formule à 8, qui est bien sûr, encore une fois, très influencé par mon rapport classique, où j'avais envie d'avoir cette dynamique-là, et qui est la formule à laquelle je tiens. Ouais.
Intermède musical, ça existe dans l'album. Il fallait qu'il y ait ça aussi comme signature.
Oui, je pense que pareil, dans la construction, c'est venu assez naturellement. Un petit intermède qui sonne un peu classique, que j'avais écrit au piano, sur lequel on a ajouté un contre-chant de corps. Merveilleusement joué par Guillaume Leblanc, que j'ai la chance d'avoir sur scène avec moi. Pareil, une petite citation, une petite référence à ma culture classique, au fait que les morceaux, ça peut aussi être une suspension très courte comme ça, de quelques secondes, et ça amène quelque part. Ça permet de faire une transition. J'avais très envie de travailler sur ce côté concept de l'album, pas juste des titres qui s'enchaînent, mais aussi avoir quelque chose de plus organique, de plus se permettre des petits moments de respiration, et pas juste enchaîner des titres les uns derrière les autres. Penser plutôt une traversée. Et donc, ça fait partie de cette construction-là.
Sur l'album, il y a aussi un peintre qui est convoqué.
Oui.
Courbet.
Ah oui.
Et son origine du monde.
Totalement.
Ça m'a permis de situer la date exacte de cette œuvre, puisque c'est le titre de la chanson.
Tout à fait. Ah, c'est la première fois qu'on le dit. Je suis très contente. Les gens ne font pas autant ce travail d'investigation d'habitude. 1866, qui est donc la date de création de l'origine du monde de Courbet, tableau que j'adore, et qui est aussi la date de la vie parisienne d'Offenbach, qui est une des œuvres d'Offenbach que j'aime énormément, donc c'était marrant d'avoir cette dualité, et qui est une déclaration d'amour à l'art. Alors ça prend la forme métaphorique d'une femme, mais c'est une déclaration d'amour à l'art, aux beaux-arts, qui sont très présents aussi dans mon album, qui sont présents sur la pochette, qui est un tableau de mon grand-père qui est sculpteur peintre, Jacob Bourges, et puis ce rapport pictural, ce rapport aussi manuel que ça induit. Je dis souvent que je viens d'une famille d'artisans, artistes, musiciens, mon papa est voilà, à la fois ébéniste et pianiste. Ma maman a aussi ce rapport double, voilà, professeur de lettres et de théâtre, mais aussi extrêmement manuel, un rapport très, très fort à la main, outil. Donc, c'est quelque chose qui compte pour moi. Et ce rapport aux Beaux-Arts était assez déterminant. Courbet, bien sûr, Rodin aussi, dont je parle. Et puis Constance, qui était la muse, dont j'évoque quelques mots, dans 1866, avec un Gloria Constance. Constance qui était en fait une demi-mondaine, donc une prostituée, somme toute. Et j'aimais bien l'idée de faire un Gloria pour une pute, quoi. Je trouvais ça assez... irrévérencieux, et j'aimais bien cette idée-là. De aussi d'honorer la femme, d'honorer la muse dans toute sa complexité sexuelle et dans cette affirmation-là, et de l'honorer de façon presque religieuse, je trouvais ça intéressant.
J'ai pas le temps pour les histoires, j'ai pas le temps pour la bagarre, je suis pas à l'heure au rendez-vous. J'y préfère l'odeur de ton cou. Je veux qu'on se la donne en nos troubles, au fond des tempes, sentir mon pouls. Pas le temps pour le tiède ou le souple. Moi j'aime pas le ventre mou. Je veux les genoux écorchés, les cheveux gris, les traits. Plongé à pic dans tes abîmes, avec pour seul maître le hasard, mes souliers vernis qui s'abîment sur les pavés de mon cafard. Proxénète, y'a que pour lui que je fais le trottoir. Il habille comme une cigarette, mes longues nuits du dimanche soir. Je sens mon dos sur les épaules, triste destinée shakespearienne, laisse sur ma chair des taches mauves à chaque coup. Sultana des idées noires, il métamorphose mes peines en nostalgie de quai de gare. Il a l'odeur des hivers froids, la pâleur des dames d'autrefois, le goût amer qu'il laisse au bouche ne veut jamais. Je me couche.
Cette cœur à retrouver sur toujoursbellaciao.blogspot.com.
Merci à Mauva Malvi de s'être prêtée au jeu en mai 2023.
René Pagès, Jean-Claude Debar, à la semaine prochaine pour un set de cœur ou pour un bella ciao.